sur 94,8.
En province orientale, selon l'Institut national de conservation de la nature, ICCN en sigle, plusieurs espèces, notamment les rhinocéros blancs, sont en voie de disparition dans les aires protégées de la province. Le parc national de la Garamba, qui hébergeait une trentaine de rhinocéros blancs il y a 10 ans, n'en compte aujourd'hui plus que 4 à 5 individus. Des okapis ainsi que des éléphants sont également décimés par des personnes en armes. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour éviter la disparition des espèces protégées? Nous aurons la réponse avec notre invité Honoré Malingané, directeur provincial à l'ICCN. Mais d'abord, faisons le point avec Jacques Nkokolé. Jacques, vous êtes en ligne et bonjour.
Bonjour, JR.
Alors, qu'est-ce qui favorise actuellement, disons, la situation qui prévaut actuellement au niveau du parc de la Garamba?
Oui, disons d'abord, JR, qu'il y a eu tout dernièrement un atelier organisé par l'ICCN, atelier auquel une cinquantaine de membres de la société civile ont récemment participé. Alors, cette concertation devrait aider à l'élaboration d'un programme national des forêts. Ceci reprendra, c'est-à-dire ce programme, reprendra une nouvelle politique ainsi qu'une nouvelle gouvernance forestière. Ce programme est motivé, pour répondre directement à votre question, par la situation préoccupante qui prévaut dans les aires protégées dans la région. Plusieurs espèces protégées, notamment les rhinocéros, les okapis et les éléphants, sont décimées. Honoré Malingané est directeur provincial de l'ICCN. Il nous fait l'état des lieux de la faune en province orientale.
Un état des lieux presque préoccupant avec les différents troubles qui se passent dans les certaines aires protégées, et spécialement dans les districts du Haut-Ouélé où nous avons le parc national de la Garamba, qui est ainsi le patrimoine mondial, qui a été créé en son temps pour la protection des rhinocéros blancs, qui à l'époque, avant l'indépendance, était compté à plus ou moins 800 individus. Avant les guerres, les différentes guerres qu'a connu notre pays, nous étions à 31 individus. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons des traces que de 4 à 5 individus. Et le même massacre a concerné aussi les éléphants pour les pointes d'ivoire. Il y a les bifs aussi qui ont subi un lourd tribut pour la viande, etc. Au jour d'aujourd'hui, nous connaissons deux types de braconnage. Nous avons le braconnage international qui est perpétré par des éléments qui viennent des pays étrangers, tels les cas des FDLRA, qui sont au parc national de la Garamba. Nous avons les éléments Bororo. Donc c'est autant, ce sont surtout ces gens-là qui massacrent nos animaux, parce que le braconnage international concerne plus les éléphants, mais spécialement pour les rhinocéros, c'est un braconnage international qui les a décimés.
Alors, qu'est-ce qui favorise ce braconnage dans les aires protégées et qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation, Jacques Moukonkoli?
Oui, plusieurs facteurs sont à la base de cette situation, notamment la faible capacité de gouvernance des forêts, les exploitations illégales, la faible conservation de la faune et de la flore, ainsi que la pauvreté de la population. Toutefois, le respect des mécanismes légaux prévus par le code forestier, ainsi que la sensibilisation de la population sur la protection des aires protégées et les concessions d'exploitation sont parmi les solutions pour pallier cette situation. Écoutons bienvenue Ngoyi Isikimo, coordinateur national du groupe de travail forêt, GTF en sigle, au ministère national de l'Environnement.
Bon, nous attendons beaucoup de cette société civile pour la simple raison que la société civile et les ONG en particulier travaillent avec les communautés locales et nous voulons que les forêts puissent profiter également à nos communautés locales. Et nous voulons que cette société civile soit d'abord informée sur les lois, notamment les codes forestiers, et nous voulons aussi que cette société civile soit informée sur les programmes qui seront mis en œuvre par le gouvernement et que cette société civile participe, n'est-ce pas, de la conception à l'exécution jusqu'à l'évaluation de ce programme. Les tendances vont dans le sens de renforcer les capacités de l'administration en termes d'équipement, mais aussi en termes de renouvellement du personnel, parce que dans la plupart des cas, on assiste à un vieillissement du personnel. Il faut donc recruter de nouvelles unités, mais il ne suffit pas de les recruter, il faut les motiver aussi pour que le travail de contrôle soit fait sur le terrain. Deuxièmement également, sur le plan n'est-ce pas, de la connaissance même de la loi, il faut vulgariser le code forestier qui n'est pas assez connu, dont les exemplaires sont insuffisants. Il faut donc traduire aussi ce code en langue nationale pour une plus grande vulgarisation. civilisation. Troisièmement, ce qui concerne la conservation, il ne faut pas seulement conserver la faune et la flore, mais aussi tenir compte des populations qui vivent autour des aires protégées, mais aussi pousser les sociétés d'exploitation à respecter les cahiers de charges avec les communautés locales.
Alors Jacques, que dit la société civile appelée à s'impliquer dans cette démarche?
La société civile promet de sensibiliser la population sur l'importance de la protection de la faune et de la flore. Cependant, elle demande au gouvernement de prendre en compte les intérêts communautaires. Micheline Yuma de la société civile.
En vertu de toutes ces réalités que ces acteurs connaissent, nous sommes en train de proposer qu'on puisse accompagner la population dans la communauté locale dans même l'élaboration de leur cahier de charges, puisque souvent la communauté locale ne se retrouve pas. Alors, la société civile a l'obligation d'accompagner de cette communauté pour pouvoir voir dans quelle mesure elle peut bénéficier de cette exploitation forestière. En principe, la population ne peut pas vivre sans la forêt. Maintenant, pour ce qui est de la protection des bêtes, cette population doit être à mesure de comprendre que, avec l'aide bien sûr de la société civile, à travers la sensibilisation, la vulgarisation de notre code forestier, la population doit arriver au point de comprendre que il faut protéger ces espèces qui sont rares, puisque ces espèces nous permettent d'emmagasiner l'argent qui peut provenir du tourisme. Ça, c'est de un. De deux, toute société doit cultiver maintenant l'élevage, d'avoir la culture de l'élevage, puisque avec cet élevage-là, ça va permettre à ce que les bêtes puissent se reproduire et que cette population puisse se nourrir de cet élevage. Ça sera une bonne chose pour la nation.
Voilà Jacques, comme on va terminer avec vous, ben, il faut quand même noter que la province orientale en elle-même renferme quand même un important pourcentage des aires protégées de la République.
Hein. Oui, la province orientale renferme environ 30% des aires protégées de la République démocratique du Congo.
C'est quand même énorme. Voilà, donc on s'arrête là avec vous. Il est temps de donner la parole à notre invité, Honoré Malingané, directeur provincial de l'ICCN. Avec vous, on s'arrête là et merci, à très bientôt.
Au revoir, J.R.
Okapi Mama sur Radio Okapi, c'est la vie à portée de vos mains, l'évolution des prix des marchés de toute pays, les secrets de la bonne cuisine, la créativité de vos enfants, la voix des femmes, la santé de votre famille, les loisirs et les comptes congolais. Okapi Mama au croisement de vos désirs d'avenir, Okapi Mama pour mieux vous servir. Du lundi au vendredi, de 2h à 15h, hors de Kinshasa, de 13h à 16h, hors de l'Ouest. Au Capitaine, c'est aussi pour les femmes.
Honoré Malingané, vous êtes directeur provincial de l'ICCN, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
À en croire le point que venait de nous faire notre confrère Jacques Moukonkolé, on peut dire qu'en province orientale, la faune est vraiment menacée.
Oui, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, la province orientale fait l'objet de plusieurs menaces de par les différentes rébellions qui ont eu à se succéder. Mais nous pouvons dire quand même, retenir au jour d'aujourd'hui, que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, à travers son comité de gestion, essaie de ménager des efforts pour essayer de diminuer ces menaces qui en fait entament sérieusement la faune des aires protégées de la province orientale.
Oui, mais docteur, aimerait savoir quel genre de menaces aujourd'hui dont est l'objet la province orientale. Ou les a protégés de la province orientale.
Oui, nous avons trois sortes de menaces, trois sortes. Nous avons d'abord le braconnage international qui est perpétré par ces éléments irréguliers qui viennent du Soudan, de l'Ouganda, des pays voisins, vous voulez dire. Nous avons le braconnage interne et nous avons l'exploitation minière artisanale qui est aussi un élément destructeur des aires protégées. Parce que ceux qui viennent pour le braconnage doivent se nourrir, et ceux qui viennent pour l'exploitation minière tuent les animaux aussi pour pouvoir se nourrir. Voilà un peu les trois menaces qui sont vraiment considérées comme étant un danger par rapport à la pérennisation des aires protégées dans la province orientale.
Alors comment l'ICCN s'y prend pour protéger même quelques espèces qui sont encore en vie afin d'éviter totalement l'extinction de ces individus du reste rare sur la planète Terre?
Oui, je dois d'abord dire que les espèces qui sont sérieusement menacées sont les rhinocéros blancs et qu'on retrouve au parc national de la Garamba. Nous avons les éléphants qui sont aussi sérieusement menacés. Et par rapport à ces deux espèces, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, en ce qui concerne le parc national de la Garamba, qui est aussi un site du patrimoine mondial, a, en plus des approches internes, développé une politique qui consiste à signer un contrat avec un contrat de gestion avec une ONG internationale qui a une certaine spécialité dans le domaine de la conservation. Et c'est dans ce cadre-là que nous essayons de trouver des solutions pour pouvoir garder en vie cette espèce de rhinocéros qui, avant l'indépendance, était évaluée à plus de 800 individus. Et pendant les guerres, avant les guerres de libération, avant la guerre de libération de 1997, nous étions à plus ou moins 31 individus. Et à ce jour, nous avons des traces de moins de 5 individus. Voilà un peu ce qui a poussé le comité de gestion à pouvoir développer d'autres approches par rapport aux approches qui étaient démises dans l'entreprise.
Alors, disons, de 800 individus à 4 individus aujourd'hui, c'est vraiment une chute aux enfers. Et comment l'ICCN compte multiplier les efforts pour renverser cette pyramide?
Oui, l'ICCN en partenariat d'abord en appui au gouvernement national qui a la mission en fait d'appuyer l'ICCN essaie de renforcer la surveillance. Nous essayons de faire le renforcement des capacités aussi. Et on envisage le recrutement de nouvelles unités et bien entendu il y a une forte sensibilisation au niveau du pouvoir central pour que l'ICCN soit doté en matériel d'ordonnancement qui permettront aux gardes de pouvoir résister à ces braconniers qui sont fortement armés. Voilà un peu certaines approches mises en place. Mais aussi, nous avons la collaboration de la 9e région militaire qui nous appuie, qui nous assiste très, très considérablement. Bref, je peux dire que l'ICCN est en bon partenariat tant avec les institutions nationales, internationales, et maintenant, nous sommes au niveau de la sensibilisation des communautés locales. Parce que sans cette communauté locale, il nous sera totalement difficile de pouvoir protéger ces espèces. Mais nous pensons que si nous avons aussi l'accompagnement de la société civile, l'accompagnement des communautés riveraines, c'est en ce moment-là que nous pourrions arriver à protéger réellement. Parce que là, la conservation ne sera plus l'affaire seulement de l'ICCN, mais ce sera l'affaire de tout le monde.
Alors, en quoi consistent concrètement ces partenariats, tant national qu'international, que bénéficie l'ICCN?
Oui, ces partenariats consistent à mettre à la disposition de l'ICCN d'abord des fonds nécessaires pour la surveillance. Pour surveiller, il faut pouvoir motiver les gardes. Il faut trouver des tenues, il faut trouver des rations de patrouille, il faut des véhicules, il faut des médicaments, il faut un certain nombre de paramètres qui puissent favoriser un bon travail sur le terrain. Donc ce partenariat au niveau international consiste à mobiliser des fonds et au niveau national il consiste à sensibiliser les autorités pour que celles-ci comprennent que l'affaire de la conservation n'est pas seulement l'apanage des ICCN, mais plutôt que toute autorité où qu'il soit, qu'il peut apporter son appui à la protection de ces espèces en voie de disparition. C'est dans ce cadre même que le gouvernement provincial aussi s'investit. Et il y a d'énormes efforts qui sont manifestes sur le terrain au jour d'aujourd'hui pour essayer de mettre fin au désordre qui menace dangereusement ces espèces.
Oui, mais malgré ce partenariat, il faut tout de même le reconnaître, Honoré Malingané, que les actions de l'ICCN sur le terrain, bon, notamment autour du parc de la Garamba, ne sont pas du tout visible, c'est comme si tous ces efforts, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan.
Par contre, mon frère, je ne sais pas si vous êtes loin de la Garamba, mais si vous y arrivez, vous allez trouver que l'ICCN a commencé à appuyer beaucoup de micro-projets de développement aux environs de la Garamba pour en fait amener la population à s'impliquer dans la protection. Il va de soi que moi, si vous comparez le nombre de 800 dont je vous ai parlé, vous avez l'impression de croire qu'il n'y a pas assez d'efforts qui sont fournis. Mais je dois dire que les mêmes espèces de rhinos qui sont aujourd'hui seulement à la Garamba ont été aussi dans d'autres pays africains tels que le Kenya, le Soudan, je pense, l'Ouganda. Donc il n'y a que la RDC qui a pu garder cette espèce en vie, et cela n'est pas un fait de hasard.
Mais combien
de
individus?
Un travail,
monsieur le directeur,
est consistant, oui.
Ils sont en vie, mais combien d'individus qu'on garde encore?
Je disais que par rapport à la sécurité qui règne dans cette région, nous avons des traces de plus ou moins 5, ça peut être plus, mais au moins nous sommes sûrs que nous pouvons avoir des traces de plus ou moins 5 individus au jour d'aujourd'hui, mais à cause de la sécurité qui est dans la région, vous savez que nous avons les LRA de ce côté-là, nous avons les Mbororo, nous n'avons pas encore la possibilité de pouvoir faire le monitoring de jour en jour pour pouvoir définir ou identifier le nombre réel des espèces qui restent en vie.
Alors, parce que vous avez parlé de trois menaces, braconnage international, braconnage interne, ainsi que l'exploitation minière. Alors, qu'en est-il de l'exploitation minière? Et quelles sont les implications sur le terrain?
Oui, c'est une exploitation anarchique, parce que d'abord, vous comprenez que lorsqu'elle est faite dans une aire protégée, c'est qu'elle est illégale. Et là aussi, par la suite de la prolifération des armes de guerre autour ou aux environs des aires protégées, nous avons vraiment difficile à pouvoir tenir par rapport à ces aires civiques. Mais nous sommes en train de sensibiliser les autorités au niveau de la province, au niveau national. Notre comité de gestion aussi s'attelle à cette démarche pour que toutes ces exploitations anarchiques soient éloignées ou soient maîtrisées. Il est en fait qu'on ne saura pas y mettre fin immédiatement de par la dimension ou les grandes étendues qui constituent les aires protégées de la province orientale, mais nous pensons que petit à petit nous allons commencer secteur par secteur. Au niveau de la réserve de faune à Okapi de Poulou, nous avons essayé de maîtriser l'exploitation artisanale et anarchique, et nous pensons que prochainement c'est le tour du domaine des chasses de Billy Poiré, où nous avons plus de 5 000 personnes qui font l'exploitation de l'or. Nous avons le domaine des chasses de Billy Poiré, où il y a plus de 3 000 personnes déjà identifiées ou presque identifiées. Et donc il y a d'énormes efforts qui sont consentis au niveau local, et nous pensons que avec l'appui, avec l'accompagnement de tous, nous arriverons quand même à maîtriser, si pas, et à mettre fin à ce genre d'exploitation abusive.
Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Avez-vous suffisamment les moyens de votre politique pour mener à bon port ces actions?
Bon, nous pensons, pour le moment, nous disposons d'assez de bonne volonté. Il va de soi que les moyens ne sont pas encore mis en place. Et là, c'est un cas général, ça ne nous concerne pas seulement à l'ICFN, c'est un cas général dans notre pays. Et je crois que la question des moyens, c'est une question qui préoccupe nos autorités nationales. Je crois que le moment venu, des moyens pourront être disponibilisés pour que le travail se fasse comme il le faut.
Honoré Malingané, nous rappelons que vous êtes directeur provincial de l'ICCN. Vous intervenez sur les ondes des radios Capi autour de cette question sur la disparition de certaines espèces protégées. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
10h.